RFI Matin Suite et Fin. Dans moins de 20 minutes, un nouveau journal et un coup de fil à Bruxelles. Au lendemain de l'annonce par Donald Trump des droits de douane à venir de 25% sur les produits importés de l'Union européenne aux États-Unis, l'UE, conçu pour entuber les États-Unis, dit le président américain. On fera le point sur la réponse européenne à ces propos avec notre correspondant Pierre Benazet. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Florence Valmet, avec du football. Le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026 s'est achevé hier avec la qualification de la RDC.
Et les Léopards d'âme qui jouaient à Kinshasa se sont contentés d'un nul, 0-0 hier contre le Botswana, mais avaient assuré l'essentiel dès la première manche en l'emportant 2-0. Tout irait donc pour le mieux chez les Congolais si cette qualification n'avait pas été précédée d'un mouvement de grogne pour réclamer le versement de primes impayées à Kinshasa. Olga Massangou.
C'est une qualification au goût amer pour les Léopards d'âme de la RDC. C'est de justesse que les Congolaises ont accepté de jouer après un mouvement de grève pour réclamer leurs arriérés de prime. Fidéline Goy est leur capitaine.
Chez les garçons, ça ne se passe pas comme ça. C'est même chez nous, les filles. C'est pas normal. Si on donne notre argent, on ne va pas réclamer, on ne va pas faire les vidéos. Moi, je demande seulement au président de la République, au ministre des Sports, de nous valoriser. Si on continue toujours comme ça, prochain rassemblement, ça sera mieux de rester à la maison et de venir jouer.
Ce mouvement a même perturbé la préparation du match, car les Léopards n'ont eu qu'une seule séance d'entraînement avant le match retour. Lamiabou Mehdi, leur sélectionneur intérimaire, se satisfait tout de même de la qualification, même si la manière n'y était pas.
Tactiquement, je suis satisfaite parce que l'organisation défensive était bonne, mieux que le match aller. Malgré on n'a pas fait beaucoup de séances d'entraînement, mais on a essayé de régler ce problème juste avec les séances vidéo.
Malgré ce ticket arraché et la dynamique actuelle du football congolais, symbolisé notamment par le sacre du TP Mazembe Dam en Ligue des Champions et la qualification pour la CAN Maroc 2024, le football féminin peine depuis plusieurs années à trouver le financement et le soutien nécessaire en RDC. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
La RDC qui aura pour adversaire l'Afrique du Sud lors du deuxième et dernier tour des éliminatoires. Parmi les autres résultats, le Burkina s'impose face au Burundi 4-1 et accède au prochain tour. Son adversaire sera le Togo, vainqueur hier de Djibouti 5-0. Le Cap-Vert a pris le dessus sur la Guinée 4-1 et rencontrera le Mali. Il y aura également une affiche Algérie-Cameroun et Sénégal-Côte d'Ivoire. Le second et dernier tour éliminatoire de la CAN féminine 2026 se tiendra du 20 au 28 octobre prochain.
En cyclisme, un peu moins d'un mois après la prise de Goma par le groupe M23 soutenu par le Rwanda, et alors que l'insécurité règne encore dans plusieurs quartiers de la ville, sa jumelle rwandaise Gisenyi accueillait ce mercredi l'arrivée de la troisième étape du Tour du Rwanda.
Une étape remportée comme la veille par l'Australien Brady Gilmore, vainqueur d'un sprint en petit comité. Le Français Fabien Doubet reste maillot jaune, mais les écarts sont faibles et certains coureurs dangereux sont en embuscade, à l'image de l'Érythréen Enoch Mouloubran qui avait remporté la première étape et qui reste placé cinquième à 10 secondes du leader. Le directeur sportif de l'équipe d'Érythrée, Samson Solomon, reste très confiant pour la suite. Il est au micro de Thomas de Saint-Léger.
Il est arrivé avec une bonne condition. Le fait de le voir ici avec la sélection est une source de motivation pour nous tous. Pour l'instant, les grandes équipes s'observent encore, mais ça va se décanter dans les prochains jours. Les étapes à suivre sont les plus dures et il y aura de grandes opportunités pour nous. Pour moi, Enoch reste le grand favori. Toute l'équipe va travailler pour lui.
Quatrième étape aujourd'hui, les coureurs cyclistes vont rallier Karongi.
Merci Florence Valmet, bonne journée à vous. C'est une poche de verdure de 3000 hectares, le poumon vert de la capitale économique du Maroc. L'unique forêt de Casablanca, Bouskoura, est en danger. Elle souffre de la sécheresse qui sévit dans le pays depuis 7 ans. Affaiblie par le manque d'eau et les coups de chaleur, les arbres sont plus vulnérables aux maladies et aux insectes ravageurs. Un programme d'urgence a donc été lancé au mois de décembre pour sauver Bouskoura. Reportage de notre correspondant Mathias Reynal.
La forêt est située à la sortie de Casablanca, une quinzaine de kilomètres du centre-ville.
C'est très fréquenté. On compte généralement 6000 promeneurs au printemps, le week-end.
Ça, c'est pour les pics de fréquentation. Au moment où nous traversons Bouskoura avec Irsan Amar, la chef du service animation et partenariat de l'Agence nationale des eaux et forêts à Casablanca, nous sommes en janvier. Et malgré le froid, la pluie, quelques sportifs font quand même leur footing, des familles se baladent.
Au territoire du Grand Casablanca, on a uniquement cette forêt. C'est un lieu très apprécié par les Casablancais.
en quête de détente, de loisirs, d'air pur.
Bouskoura est ce qu'on appelle une forêt récréative. Elle compte de nombreux aménagements, des aires de jeu, des espaces pour pique-niquer.
Aziz Hanfaoui, chef de district proximité de Bouskoura.
Veste, camouflage et pantalon olive, Aziz a commencé à veiller sur la forêt il y a 8 ans.
La forêt n'était pas dans cet état-là. Le virage qu'a connu la forêt, c'est à partir de 2021, malheureusement avec le changement climatique. Mais on va essayer de s'adapter afin de préserver ce patrimoine.
La forêt joue un rôle écologique majeur en tant que réservoir de carbone. Elle offre aussi une protection des sols et de la biodiversité.
Durant ces dernières années, on a constaté des dépérissements massifs au niveau de la forêt de Bouskoura, des mortalités d'arbres qui ont déclenché la sonnette d'alarme pour la NEF.
Ismaili Rifqa est la directrice provinciale de l'Agence nationale des eaux et forêts, la NEF.
Donc si on observe bien le paysage, le point sur le plan où on se trouve, à droite c'est un peuplement à base de pins d'Alep. On voit presque le ciel parce que les arbres ont perdu une grande partie de leur feuillage.
La sécheresse a rendu les arbres plus vulnérables aux insectes, aux champignons.
Les interventions au niveau de cette zone ont porté essentiellement sur les travaux de sylviculture. C'est un nettoyage qui se fait pied par pied. Il touche uniquement les arbres morts.
Le programme d'urgence de la NEF est censé durer 2 ans et prévoit le reboisement de 147 hectares. Des espèces plus résistantes seront plantées comme le caroubier, un arbre local. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Notre reportage Afrique au Maroc à retrouver sur RFI.fr. Et c'est en Tunisie que nous emmène Afrique Économie ce matin. 5 ans après le début de la pandémie de Covid, les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises ont encore du mal à s'en remettre. Elles représentent près de 80% du tissu économique national, mais avec la crise économique et une inflation à 7%, 200 000 de ces PME étaient en difficulté financière en 2023. Leur durée de vie ne va parfois pas au-delà d'un an et demi, et l'année 2024 n'a pas été meilleure, Lilia Blaise.
Dans son restaurant de street food El Koucha, dans le quartier de Menza 5 à Tunis, Emna Medguiche a l'air soucieux. Malgré le succès de son commerce, elle doit s'adapter chaque jour à la hausse des prix des denrées alimentaires.
Malheureusement, les 2 dernières années ont été particulièrement difficiles parce que on fait face à une inflation à 2 chiffres sur certaines matières. Je dirais que la dernière en date qui nous a mis vraiment en difficulté, c'est l'approvisionnement en volaille depuis l'été dernier et l'inflation des prix de volaille. Parce que, en gros, en Tunisie, ce qu'on faisait avant, c'est le prix bas de la volaille permet d'équilibrer les coûts de manière plus globale.
Jambe aussi. Okay.
Le prix moyen de la volaille a augmenté de près de 19% entre 2023 et 2024. Emna a dû réduire ses marges et fait aussi face aux autres conséquences de la crise économique.
La première, c'est la hausse des matières premières. La deuxième, c'est la main-d'œuvre qualifiée qui est en train de partir dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Maroc qui se prépare pour la Coupe du Monde, la France, l'Europe. C'est une grosse difficulté. Et la troisième, c'est la baisse de pouvoir d'achat.
Si Emna parvient à se maintenir à flot, d'autres ont dû prendre des mesures drastiques. Catherine Fournier, franco-tunisienne, dirige une petite entreprise dans le secteur des ressources humaines. Elle a subi une baisse d'activité car beaucoup d'entreprises ont coupé les budgets en matière d'externalisation du recrutement.
Moi, mon choix, ça a été notamment, par exemple, de passer en coworking space au lieu de garder un local en propre pour diminuer les charges. Ça, c'était le premier réflexe. Et puis, après, c'est effectivement de continuer d'essayer de faire de la croissance en développement au niveau commercial. Et puis d'essayer de créer peut-être plus de dynamique de partenariat.
Comme Emna, malgré un réseau professionnel développé, elle se sent à l'écart des systèmes de soutien financier.
Je ne dis pas qu'il faut nous passer certaines choses, ce n'est pas du tout le cas. On doit payer des impôts comme tout le monde, c'est normal. Mais peut-être que si on était un peu mieux traité et qu'on avait des systèmes un petit peu plus souples, ça nous aiderait à créer de la trésorerie. Parce que finalement, une TPE, c'est tourner toujours des sociétés de services. Et le cœur du problème, c'est la trésorerie.
Beaucoup ne peuvent plus répondre aux exigences en termes de garanties et donc n'arrivent plus à trouver des financements. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Afrique Économie, bientôt 8h en temps universel et sur RFI, on se quitte en musique, comme chaque matin. Mmh. Et on peut parler d'un artiste inclassable, fan de musique baroque et de polyphonie zoulou. Il s'appelle Abel Selaouchoué et enchaîne les collaborations entre musique classique et Afrique, jazz et beatboxing. Bonjour Carmen Luntzmann.
Bonjour Julien.
À 32 ans, le Sud-Africain sort un nouvel album à son image, Hymns of Bantu, 12 titres. Où il fusionne standard baroque et hymne bantou.
Et pour ce faire, Julien, Abel Selaouchoué navigue entre champs magnétiques, tout un arsenal de percussions et son instrument fétiche, le violoncelle.
Tsolé Tsolé évoque l'idée que tout est lié, cet hymne sud-africain en Sesotho, l'une des quelques 450 langues bantoues, ouvre l'album de ce prodige du violoncelle dont le chemin, Carmen, était tout sauf tracé.
C'est le mot, Julien, car ce fils d'un mécanicien Tswana et d'une femme de ménage zoulou, issue d'un township près de Johannesburg, commence à apprendre le violoncelle à 11 ans, littéralement sur le papier.
En raison du manque de ressources, on avait accès à l'instrument seulement une fois par semaine. On a donc dessiné quatre lignes pour les cordes, do, sol, ré, la, et on a posé nos doigts sur le papier pour imaginer le son à l'intérieur. Plus vous vous montrez ingénieux, plus les gens vous donnent l'opportunité.
Ingénieux et bourré de talent, le jeune Abel obtient donc un an plus tard un vrai instrument, Julien, et un professeur de taille, le premier violoncelliste noir à avoir intégré l'Orchestre symphonique d'Afrique du Sud. À 13 ans, il décroche une bourse pour une prestigieuse école à Johannesburg et une deuxième à 17 ans pour qui lui permet de passer son diplôme à Manchester en Angleterre, sans pour autant oublier ses racines sud-africaines.
I live by this code of Ubuntu.
Je vis par le code Ubuntu, cette notion humaniste, je suis parce que vous êtes. Je me tiens sur les épaules de géants, mes ancêtres qui se sont battus pour ma liberté, Desmond Tutu, Steve Biko, Chris Annie, c'est de là que je tire mon inspiration.
My source of inspiration from.
Carmen, à travers le chant guttural puissant et profond, Abel Selaouchoué rend aussi hommage aux héros de la lutte contre l'apartheid.
Oui, même s'il est né après, hein, en 92, Julien. Mais en effet, cette histoire de lutte contre le régime est profondément ancrée en lui. Par contre, si l'album s'inspire du passé, il veut aussi faire croire en l'avenir et le pouvoir de guérison à travers la musique, justement. D'où, par exemple, ce métissage improbable mais magnifiquement réussi entre un chant bantou et une pièce pour viol de gambe d'un français du XVIIe siècle, Marin Marais, transposé sur le violoncelle d'Abel Selaouchoué.
Voices of Bantu, dialogue savant et populaire entre héritage musical occidental et africain. Hymns of Bantu, le deuxième album du violoncelliste, chanteur et compositeur Abel Sela Ochoué, vient de sortir chez Warner Classics. Et on se quitte avec un extrait du dernier titre, Kamagou. Merci Carmen Lunzmann.
Merci Julien.
Et merci à Christophe Pernet à la réalisation de ces 3 heures d'RFI Matin. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. Et d'ici là, vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec Juan Gomez à Cotonou, au Bénin, pour rappel sur l'actualité. Bonne journée.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Journée mondiale des maladies rares, les atteintes dermatologiques.
Demain,
émission Questions de femmes, l'anémie, la dépister, la prendre en charge.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Les couleurs du son et RFI Talent présentent Naïssam Jalal en concert. À l'occasion de la sortie de son dernier album Healing Rituals, autrement dit Rituel de guérison, retrouvez la flûtiste franco-syrienne sur la scène du New Morning à Paris le 27 février à 20h. Plus d'infos sur newmorning.com.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Chantal Leroux.
La grande Sophie troque la guitare pour la plume. Dans son premier livre, Tous les jours Suzanne, elle écrit plus d'une centaine de lettres à une confidente imaginaire. Elle lui raconte avec humour et poésie les coulisses de sa vie d'artiste, mais aussi son parcours de femme, sans cacher ses failles. La grande Sophie est notre invitée.
Écoutez De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.